France Inter. Karine Bécard, Ali Badou. Le 7-9.
Mardi 16 février, bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, quand la musique peut espérer en plein Covid. La ministre de la Culture a annoncé hier soir des concerts tests sous contrôle scientifique dans les prochaines semaines, avec l'espoir de sauver la saison des festivals. Le détail dès le début du journal. Les autres titres, Agnès.
Mais où sont passés les traditionnels virus de l'hiver? Une seconde attaque informatique en une semaine contre un hôpital. L'engagement de la France au Sahel comporte aussi un volet humanitaire mais qui reste insuffisant. L'Open de tennis d'Australie avec un énième remake de David contre Goliath et un remake de Guignol en Bretagne pour se moquer du couvre-feu à 18h.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50 avec vous Karine Bécard.
C'est lui qui a entre les mains l'avenir du référendum sur le climat et la biodiversité. C'est un jeune député macroniste qui a été prié d'aller discuter avec la droite sénatoriale. Réussira-t-il à l'amadouer? Pierre-Alexandre Anglade, rapporteur du projet de loi constitutionnelle et porte-parole du groupe de la majorité à l'Assemblée, sera notre invité tout à l'heure à 7h50.
À 8h20, le grand entretien de la matinale avec le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. Il publie « Retrouver confiance en l'économie » chez Odile Jacob et il nous dira comment. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter. Un an déjà, presque sans concert debout, un long tunnel pour les artistes et leur public, avec, depuis hier soir, donc une petite lueur d'espoir. La ministre de la Culture a annoncé des concerts tests à Paris et Marseille en mars et avril. L'Espagne et l'Allemagne l'ont déjà fait, l'Angleterre et les Pays-Bas s'y préparent. En France, donc, ces expérimentations seront menées sous contrôle scientifique, avec tests des participants, avant et après les concerts. Roselyne Bachelot a détaillé hier soir sur LCI la procédure et le calendrier.
Nous sommes en train de monter, on en définit les modalités, deux concerts, deux expérimentations à Marseille, avec deux concerts de 1000 personnes assis, avec la possibilité de se lever au Dôme de Marseille. Deuxième quinzaine de mars, là encore dans un contexte sanitaire apaisé. Et puis à Paris, à l'Accor Arena, là on est avec l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Et alors là, c'est un concert en jauge debout. Ça va être très intéressant à voir parce que c'est justement les concerts les plus problématiques.
Et sans doute aussi les plus appréciés. Roselyne Bachelot doit en discuter après-demain avec les responsables des principaux festivals de l'été. Alors faut-il privilégier les concerts assis, forcément plus sages, ou tout faire justement pour défendre ces concerts debout? La question, Mathieu Culeron, agite la scène musicale.
Deux positions s'affrontent en ce moment au sein des grands festivals. Faut-il tout faire pour sauver une version où le public serait toujours debout ou accepter un compromis en se dirigeant vers une version assise avec des aides financières du ministère? Jérôme Tréorel, le directeur des Vieilles Charrues, envisage cette dernière option.
C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. On fait des grands rassemblements de 70 000 personnes, mais si c'est la règle compte tenu de la situation sanitaire, à nous de trouver les solutions avec les autorités et avec le soutien du ministère, eh bien, il faut qu'on travaille le plus tôt possible parce que il nous reste quelques mois pour imaginer ce format éphémère.
D'autres grands festivals feront tout pour privilégier une édition avec un public debout. C'est le cas du nouveau directeur de Rock en Seine, Mathieu Ducot.
On privilégie évidemment toujours la version debout. C'est notre version habituelle et elle est en très grande partie constitutive de ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on est des événements festifs, des espaces de lâcher prise. Voilà, il y a un esprit de liberté qui passe par exemple par le fait de pouvoir passer d'une scène à une autre. Cette version debout et ce format debout, pour nous, il est crucial.
Certains festivals ont d'ores et déjà décidé de se décaler en septembre pour jouer la carte de l'immunité collective. D'autres parlent déjà d'annulation pour la deuxième année consécutive.
Et parmi les festivals déjà annulés, Solidays qui devait se tenir en juin à Paris. Autre secteur en souffrance, le secteur aérien. Orly ferme son terminal 4. Le 1 l'était déjà. Les terminaux 2 et 3 restent partiellement ouverts. Orly a accueilli l'an dernier un peu moins de 11 millions de passagers, soit 66% de moins qu'en 2019. Des décisions qui dépendent bien sûr de l'évolution de la pandémie. La présence des variants anglais, brésiliens et sud-africains dans l'Hexagone n'entraîne pas pour l'instant d'explosion du nombre de contaminations, mais la pression reste forte dans les hôpitaux, avec 3371 malades en réanimation, un chiffre en légère augmentation. Des capacités Des campagnes de dépistage massif se multiplient dans les territoires les plus touchés, en Moselle, dans la région de Dunkerque ou encore en Dordogne. Masques, gestes barrières, vie sociale réduite. Et voilà les virus traditionnels de l'hiver presque maîtrisés. Quasiment pas de grippe cette année, quelques gastro, mais rien à voir avec ce que les médecins avaient l'habitude d'observer les années précédentes, Véronique Julia.
On avait observé la même chose l'été dernier dans l'hémisphère sud. En France, les généralistes le confirment, à part le Covid, leur quotidien c'est de s'occuper des patients âgés et de leurs maladies chroniques. Calme plat pour le reste. Certains cabinets disent même avoir perdu jusqu'à 30% de leur activité habituelle. Alors bien sûr, on sort moins, on voyage moins, et s'il y a moins de gastro-entérite, c'est sans doute grâce au lavage des mains plus systématique, estime le virologue Jean-Claude Manuguera, pour qui port du masque, distanciation sociale et usage du gel hydroalcoolique sont aussi des freins puissants à la circulation des virus. Ça lui rappelle d'ailleurs la pandémie grippale de 2009.
Quand le H1N1 pandémique est arrivé, on avait une diminution de la circulation des autres virus respiratoires et même des virus de gastro-entérite parce qu'on avait préconisé l'usage des gels hydroalcooliques. Il y avait un effet sur les autres virus.
Petite exception, toutefois, les rhinovirus à l'origine de rhume continuent de circuler.
Ce sont des petits virus. Ils sont tout petits et résistants dans le milieu extérieur. Et donc, ça peut expliquer le fait qu'il soit plus compliqué d'empêcher leur transmission.
Pour le spécialiste, en tout cas, le fait que davantage de monde se soit fait vacciner contre la grippe cette année ne peut pas expliquer l'absence de grippe depuis 4 mois. De fait, il y a des années à grippe, comme l'hiver dernier, d'autres pas, comme durant l'hiver 2001, il y a 20 ans. Et cela, sans qu'on sache très bien l'expliquer, on essayera de comprendre a posteriori, dit-il, ce qui reste pour l'instant un mystère.
Une autre forme de virus, en revanche, est en pleine expansion. Ce sont les virus informatiques. Cette fois, c'est le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône, qui est touché. Les précisions de Mathilde Imberti.
Un cryptovirus qui bouscule toute l'activité de ce centre hospitalier pour lequel travaillent 3000 personnes. L'attaque typique d'un logiciel malveillant, dit rançongiciel, qui bloque les données et conditionne leur récupération au paiement d'une certaine somme. Pour stopper la propagation du virus, les accès au système d'information et à Internet sont coupés, les postes de travail déconnectés. Un dépôt de plainte est en cours, indique la communication de l'hôpital. Le diagnostic précis est en train d'être établi. En attendant, les patients devant être soignés en urgence sont redirigés vers d'autres établissements de la région, à l'exception des naissances qui continuent d'être accompagnées. Par ailleurs, les opérations prévues ce mardi ont toutes été déprogrammées. Par contre, les patients hospitalisés avant cet incident restent sur place, pas de transfert prévu pour eux. Il s'agit de la deuxième attaque d'ampleur pour un centre hospitalier en une semaine, après celle de Dax, mardi dernier. À Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
De son côté, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques a lancé une alerte hier après la découverte d'une intrusion informatique via le logiciel français Centréon, qui compte parmi ses clients de grandes entreprises et le ministère de la Justice. Le projet de loi contre le séparatisme avec un premier vote aujourd'hui à l'Assemblée, après 2 semaines de débats parfois houleux. Les oppositions dénoncent un texte trop faible ou hors sujet, mais la majorité devrait faire bloc. Le texte sera examiné par les sénateurs à partir du 30 mars. Dans le journal de 7h30, nous entendrons les associations qui s'inquiètent d'une possible baisse des subventions.
France Inter, 7h08, la suite du journal. Agnès Soubiran, le Tchad envoie 1200 soldats supplémentaires dans la zone des trois frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
Annonce faite en marge du sommet G5 Sahel hier, auquel Emmanuel Macron a participé en visio, insistant sur la nécessité de lutter contre le djihadisme en aidant les populations locales. L'an dernier, plus de 800 projets ont ainsi été soutenus par la France, l'Allemagne et l'Union européenne pour un montant de près de 12 milliards d'euros. Mais Nathalie Hernandez, cela reste très insuffisant.
Il y a bien eu des résultats sur l'Alliance Sahel dans son communiqué publié hier en marge du sommet du G5. 1,5 million de personnes ont désormais accès à l'électricité, 3,5 millions d'enfants ont pu être vaccinés ou encore 420 000 jeunes ont pu suivre une formation professionnelle. Mais sur un territoire grand comme l'Europe, en proie à des violences grandissantes, le bilan reste insuffisant, estime Jean-Hervé Jézéquel, le directeur Sahel du think tank International Crisis Group, comme dans le nord du Mali.
Par exemple, dans la ville de Kidal, il n'y a toujours pas d'électricité, il n'y a toujours pas d'eau courante. Ça fait 7-8 ans maintenant qu'on essaye d'y déployer des projets de développement. Vous parlez d'électricité ou d'eau courante, mais même ne serait-ce que les représentants de l'État ont du mal à retourner de manière paisible dans des zones qui ont été en insurrection.
La solution, selon lui, viendra d'un changement politique moins sécuritaire, plus proche des populations.
Il y a un fossé qui s'est creusé entre les citoyens du Sahel et puis leur État, leur gouvernant. C'est sans doute l'enjeu le plus compliqué. C'est de reproposer aux populations une forme de gouvernance qui leur soit adaptée et qui les attire suffisamment pour que l'État puisse se redéployer et être beaucoup plus sensible à reconstruire son utilité.
Quant à la communauté internationale, Elle peut venir en appui, conclut Jean-Hervé Jézéquel. Mais sûrement pas se substituer.
Une précision de Nathalie Hernandez. L'Open de tennis d'Australie. Si on s'intéresse ce matin au jeune russe Aslan Karatsev, 114e joueur mondial, issu des qualifications, qui affronte en ce moment pour une place en demi-finale le bulgare Grigor Dimitrov, 21e au classement mondial. Et pour l'instant, contre toute attente, Fabrice Abgral, c'est très serré.
Bah c'est très serré, puis Karatsev vient de se détacher 2-7-1 en faveur de Aslan Karatsev. Il vient de remporter le troisième set sur le score de 6-1. Alors c'est vrai que voir Karatsev en quart de finale de l'Open d'Australie, c'est une sorte d'énigme. Personne n'attendait ce russe de 27 ans à ce niveau. Ce n'est même plus un espoir, Karatsev. Alors pour apprécier l'ampleur de l'exploit réalisé par ce 114e mondial, il faut savoir qu'avant cet Open d'Australie, Aslan Karatsev n'avait disputé que 9 tournois depuis ses débuts sur le grand circuit professionnel en 2011 et il n'avait remporté en tout et pour tout que 3 matchs. Là, il en a remporté 7, dont 3 en qualification et pourquoi pas un 8e aujourd'hui. Avec lui, tout est possible. Ce russe d'1m85 pour 85 kilos a construit sa carrière jusqu'à présent en toute discrétion, en écumant les épreuves de 2e et 3e catégorie. Mais à Melbourne, contre toute attente, il est en pleine réussite, il est en pleine confiance et il s'amuse ou chamboule tout. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il participe à son tout premier tournoi du Grand Chelem.
Merci Fabrice Abgral. À suivre donc. Leurs destins vont se croiser ce soir. Lionel Messi et Kylian Mbappé s'affrontent pour la première fois en Ligue des Champions. 4 ans après la remontada des Espagnols, Barça-PSG, c'est ce soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Enfin, cela fait tout juste un mois que le couvre-feu nous renvoie à la maison à 18h. Une situation qui a inspiré un comédien breton qui, tous les soirs, joue les guignols en endossant un costume de gendarme pour arpenter à vélo les rues de Lampol-Plouarzel pour prévenir les habitants de l'obscurité qui va s'abattre sur la commune. Enfants et adolescents sont eux aussi déguisés. Ils ont pris l'habitude de lui courir après en hurlant. Une déambulation joyeuse qui vise à dénoncer les privations de liberté engendrées par la pandémie. Le trublion s'appelle Éric Hervé et notre reporter Nicolas Olivier l'a suivi.
Et on est parti, il va faire tout droit.
Ça m'a énervé en fait qu'on nous limite encore des libertés. Donc je me suis dit, je vais aller annoncer le couvre-feu pour dire que il y en a marre de ces décisions parisiennes pour nous qui sommes ici au fin fond du Finistère. Quoi.
On fait en sorte par ce temps de Tchernobyl de prévenir les gens qu'il faut vraiment rentrer chez soi le soir à 18h, hein, parce que sinon on ne va pas aller bien.
Le couvre-feu pour lui paraît un peu pas très logique parce qu'on n'est pas vraiment, enfin on se sent pas assez concerné ici. Ouais, c'est top, c'est pas mal. Les enfants attendent du coup son passage le soir derrière les barrières, derrière les arbustes pour pouvoir lui répondre le gentil ta gueule.
L'autre jour, on a bu un petit verre de jus de pomme et des tranches de saucisson au portail. C'est très égoïste ce que je fais, parce que moi, ça me fait un bien fou en fait de faire ça. C'est essentiel, l'autre. C'est la meilleure des médecines pour moi de voir l'autre.
Est-ce qu'on va avoir un coup chez Gégé ?
Reportage de Nicolas Olivier de France Bleu Brésil.